Avant de faire la cuisine, il faut sélectionner le meilleur produit dans sa saison, l'assaisonner justement, le cuire parfaitement, l'assembler sans le perturber, que l'harmonie du plat ne soit pas plusieurs messages, mais un message ou deux messages. C'est-à-dire, si c'était, c'est une très très belle Saint-Jacques, un très très léger assaisonnement, une cuisson parfaite, un jus de champagne, une huître pochée, c'était ça, c'était rien. C'était l'harmonie de deux ou trois ingrédients, en tout cas des goûts justes, qui n'étaient pas dans l'esprit de la confusion, mais qui étaient dans la justesse pour respecter effectivement ce que la nature ou ce que le paysan nous avait apporté ou ce que le pêcheur nous avait pêché. Voilà, c'était... Donc c'est encore une fois, hein, depuis la cuisine a fait beaucoup de démonstrations, on a eu la période bling-bling, on a eu des menus à 16 plats, des bouchées ridicule, dont on ne se rappelle de rien si ce n'est quand même passé 3h30 à table. Tout ça enrichit l'évolution culinaire, mais finalement, aujourd'hui, ce qui m'obsède, c'est de respecter ce que la nature nous a donné et de privilégier le goût originel.
Maintenant,
aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit et de quoi on se souvient.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
De quoi on se souvient ? C'était l'hommage rendu par Alain Ducasse à Alain Chapelle, cuisinier d'exception, chez qui il avait fait ses classes il y a bien longtemps dans sa belle auberge de Mionnet et qui lui avait appris l'amour et le respect des produits. Chapelle avait écrit un livre délicieux, délicieux à tous les sens du terme, intitulé « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Évidence, penserez-vous ? Pas sûr si l'on songe à nombre d'établissements encensés par la mode du moment. Ou si l'on ne peut pas dire y avoir mal mangé, on n'éprouvera pas l'envie de retourner, faute de se rappeler la moindre émotion nouvelle. Car qu'est-ce qui rend un plat inoubliable ? Sans doute une vérité des produits, un accord surprenant de saveur, une surprise des sens, d'abord déstabilisée puis réconfortée, une alliance subtile entre du familier et de l'inattendu. Guillaume Sanchez appellerait cet entrechoquement de sensations « claque et caresse », un accord émotif en forme de déflagration, celui qu'il recherche à chaque fois qu'il crée un nouveau plat pour la carte de son restaurant étoilé du 9e arrondissement parisien. À 30 ans à peine, Guillaume Sanchez semble avoir déjà une très longue vie derrière lui. Formé à la pâtisserie mais vite lassé par la répétition, il se fait connaître en 2014 en participant à l'émission « Qui sera le prochain grand pâtissier ?». Et dans la foulée, il ouvre son premier restaurant, le Nomos, apprenant sur le tas ce nouveau métier. Revu à la télé dans Top Chef en 2018, il change d'enseigne et décrochera dès la première année une étoile pour son Nesso, un restaurant qui lui ressemble, exigeant et déstabilisant, où il innove sans cesse. En attendant des jours meilleurs, il publie aujourd'hui aux éditions du Chêne Post-Cuisine, un livre qui nous offre lui aussi beaucoup plus que des recettes. Bonsoir Guillaume Sanchez.
Bonsoir.
En ce moment, quand on parle à des chefs ou à des cuisiniers, on a l'impression de s'adresser à des grands accidentés de la route. Alors j'ai envie de vous demander, comment allez-vous ? Est-ce que vous espérez remarcher un jour ?
Écoutez, ça va. J'ai décidé cette année de pas me laisser avoir par les choses que je peux pas contrôler. La fermeture administrative de mon restaurant, je peux pas la contrôler. Donc on serre les dents, on fait en sorte de continuer à faire fonctionner tout un écosystème, on fait en sorte de garder en éveil nos équipes et nous de rester en vie.
Pendant le premier confinement, Guillaume Sanchez, vous étiez tellement désespéré que vous êtes retourné tout seul dans votre cuisine et vous avez, pendant tout le confinement, préparé des repas pour les soignants. Et on a tous vécu ce premier confinement en essayant tous de faire des choses. Et puis le deuxième, finalement, nous a rendus assez apathiques et assez résignés. Et pour quelqu'un comme vous, qui est toujours dans le contrôle extrême, est-ce qu'il y a aussi moralement quelque chose qui s'est cassé ?
Non, je crois pas. Et je pense même pas avoir fait à manger pour les soignants par désespoir. Je l'ai fait par devoir, parce qu'on n'avait pas le choix en fait. Parce qu'il fallait aider les soldats du jour à continuer au front, chose que la PHP a pas réussi à faire. Donc la restauration a pris la suite, finalement. Mais à aucun moment on a eu l'impression de le faire, parce qu'on n'avait que ça à faire. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Pour ce qui est du deuxième confinement, Je pense que justement, la vraie mission de cette période, c'est d'absolument continuer à chercher de la positivité dans nos vies, en fait. Les gens n'auront pas envie de retourner chez des chefs, restaurateurs qui font la gueule, qui gueulent, qui se plaignent. Ils auront envie de soutenir des gens qui se battent et qui ont envie de nouveau de faire passer des émotions. Et comme n'importe quel artiste, pour faire passer des émotions, il faut être capable de les transmettre.
Alors justement, parlons émotions avec ce livre Post-Cuisine qui nous a réunis ce soir.
Bonsoir messieurs, tenez, pour vous faire patienter.
Langoustines cuites et crues, topinambours fermentés 6 mois, crème de topinambour, confit d'algues, caviar au siètre, émulsion de tête de langoustine et gel de tête de langoustine.
Dites-moi, c'est quoi ces machins?
Ils sont faits en cuisine, je peux vous le garantir. Hein.
Truite de Jansac, la palue confite à l'huile de foin, voile de vin jaune, kiwi jaune et coudant pouli. Oignons des Cévennes confits, jus d'anguille fumé, œufs de hareng et poutargue.
Allez-y, goûtez.
Ah, c'est divin.
Foie gras, jaune d'œuf confit, salsifis et praliné de noisettes vinaigrées. Cabillaud confit en chlorophylle d'ortie sauvage, petit pois, ortie en texture, menthe aquatique, vinaigre de sapin et lait ribot.
Faites goûter à monsieur, je vous prie.
Sardines marinées en poche de sucre, yaourt de brebis et lierre terrestre.
Ah. Bon. Hein? Très bon, on va.
Ormeaux, immortel, jus de coquillage monté au lait d'amande et citron caviar. Dim sum de sardines grillées, bouillon d'anchois et agrumes préservés. Petit pois, couteau vivant, poutargue, fleurs de sureau fermentées en ravioles d'eau de mer.
Bon appétit.
Avec la jolie voix de Marie-Pierre Planchon et les mix de Xavier Pestugia, c'était un extrait de vos menus, Guillaume Sanchez. On en entendra d'autres dans le courant de notre conversation. On se rend compte en écoutant l'intitulé de ces plats que pour vous, il y a une voie qui n'est pas... On entendait tout à l'heure Ducasse rappeler Chapelle. Il y a une tradition de la gastronomie française. Quand on écoute l'intitulé de vos plats, on sent bien que c'est une autre voie. Même si ce sont les mêmes produits, il y a quelque chose que vous avez rejeté dans l'héritage. Vous avez eu envie de chercher vos propres sillons.
J'ai rien rejeté de la gastronomie française. J'en ai juste pris ce qui me touchait. Et j'ai... mis de côté le reste. J'ai souhaité avoir une cuisine du moment, une cuisine qui explique ce qui se passe dans ma tête et dans ma bouche. J'ai voulu retransmettre une époque, j'ai voulu m'inspirer de ce que j'ai vu, de ce que j'ai mangé, ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai rencontré pendant mes voyages, et finalement faire un résumé en fait de ce que moi j'ai engrangé en fait. Et ça passe aussi par la malbouffe, ça passe par les grands restaurants que j'ai faits, ça passe par des dîners entre amis, par mon enfance, par un plat de pâtes en étant étudiant. En fait, c'est tout ça, c'est toute une bibliothèque très personnelle qu'on accumule.
Mais d'autant plus personnelle, Guillaume Sanchez, que dans ce livre, moi j'ai découvert, enfin je ne regarde pas la télévision de ce...
Moi non plus.
Voilà, donc Top Chef, je ne vous connaissais pas. Et en fait, en lisant ce Post-Cuisine, je découvre quelqu'un qui justement n'a pas été élevé dans cette nourriture encensée en France. Vous dites, vous l'avez d'ailleurs cité, vous dites, moi j'ai la malbouffe, je connais, j'ai besoin aussi, vous parlez de l'émotion que vous avez ressentie en mangeant un kebab à Berlin. On sent bien que vous êtes pleinement de votre époque. Et en même temps, vous avez rejeté la pâtisserie, ça vous ennuyait. Vous n'aimez pas le sucré, d'ailleurs, en plus, dites-vous, dans ce livre. Mais au fond, vous avez tout de suite été enchanté par certains plats, par certains chefs. Et tout d'un coup, ça vous a peut-être ouvert un univers. On va écouter tout de suite la voix de Red Zepi, le chef du Noma, parce que lui, vous le citez comme un exemple.
To me, food is everything. It's everything that I do. It's how I live my life. It's how I organize my life. It's how I find joy. It's, you know, it's how I deal with sad moments and happy moments. It's how I make sense of the world.
Noma is a word that in Danish means Nordic food. Nordic N-O and food in Danish is mad. So N-O-M-A, Noma.
Le Danois René Redzepi, qui a été consacré meilleur chef du monde, qui a ouvert ce restaurant, on l'entendait en parler, le Noma, et qui dit qu'au fond, pour lui, faire la cuisine, c'est dealer, en fait, avec ses joies et ses peines. C'est une manière de vivre. Vous reprendriez cette phrase à votre compte, Guillaume Sanchez ?
Oui, absolument. Absolument, on le dit dans le bouquin, cuisiner, c'est aussi apprendre à apprivoiser l'incertitude. Et l'incertitude, c'est pas juste sur une livraison, un produit, une erreur en cuisine, c'est aussi sur, ok, je me sens comment aujourd'hui ? Comment va mon équipe ? Quel est le mood général ? C'est ça qui fait la cuisine, parce que ça reste des moments partagés, en fait. Qu'on soit derrière une casserole ou devant une assiette. Donc ouais, je trouve généralement que ce que dit René est assez brillant.
Mais vous êtes quand même conscient, Guillaume Sanchez, que vous êtes une exception incroyable dans le panorama gastronomique français, parce que vous le racontez assez drôlement dans ce livre que co-écrit avec Henri Michel. Vous dites que, au fond, vous saviez faire de la pâtisserie, que vous n'aimiez pas ça, et que ce métier-là, c'est-à-dire ce métier de précision extrême, d'inventivité extrême, vous l'avez appris en regardant d'abord des tutos sur YouTube, comment lever des filets de poisson, comment...
En fait, j'ai surtout beaucoup lu. C'est-à-dire que aujourd'hui, YouTube fait partie de la bibliothèque qu'on peut trouver sur Internet. Donc aujourd'hui, dire que j'ai appris uniquement là-dessus, c'est assez faux. J'ai appris la danse d'un geste sur YouTube, parce que je l'ai vu en vidéo pour le coup. Mais j'ai appris la technique et la compréhension du produit dans des livres, principalement. Parce que pour moi, ça reste un métier de culture.
Mais d'ailleurs, c'est votre deuxième livre, en fait. Il y en avait eu un autre.
Troisième,
avant.
Même, en fait.
Oui, le premier.
Plus inconnu.
Voilà, plus inconnu. Oui. Mais deux livres avec Henri Michel, Humain, et celui-ci, Post-Cuisine. Comme si, justement, c'était important pour vous de mettre des mots, des phrases, de transcrire des émotions dans un livre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le livre, par rapport au livre de recettes, au fond ?
Pour moi, ça représente, en fait, tout ce qui ne compte plus aujourd'hui. Dans un monde dont je fais partie et dont j'ai compris les codes via Instagram, via Facebook, via Internet, via une émission de radio, via des médias, donc qui va vite et où on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Le bouquin, il reste. Le bouquin, il est posé chez soi. Il attend qu'on l'ouvre, qu'on le réouvre encore une fois et puis qu'on s'arrête sur des passages, qu'on digère un peu l'info. En fait, ça laisse le temps. Pour moi, le livre, en fait, c'est la conservation du savoir. Dans un monde où tout va vite et où tout disparaît.
Dans ce livre-ci, il n'y a pas que des recettes, comme aurait dit Alain Chapelle, mais pour le plaisir, on s'en réécoute une petite litanie.
Ah, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon ?
Vous me faites confiance, comme d'habitude ?
Là, ici, je ne commande jamais, je préfère la surprise. Sommes à vous, mon
cher. Très bien.
Coq, crème d'ail confit au beurre noisette, flanc d'algues et salicorne.
Vous voulez pas un poisson, Sylvia ?
Je ne sais pas.
Sole confite en beurre d'algues, jus de sole et coquille d'huître, citron fermenté.
Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Je me suis trompé. Mais non, ce n'est pas pour vous. Une verdoyante, tout de suite.
Asperges vertes confites au genévrier, panna cotta d'asperges blanches et crémeux de burrata, olives noires séchées et fleurs d'ail des ours.
Poire d'œufs chauds et trois ballottines du duc.
Ravioles d'eau de champignons de saison, cèpes, girolles et coquillages. Panna cotta de sèche, beurre moderne infusé à la sèche, gel d'eau de pomme fermentée 400 jours et caviar au siètre. Aspic de tomates cerises et cerises fermentées, chiso, gelée de tomates green zebra, vinaigrette et crème crue.
Ah non, ça c'est à pêcher. C'est pour ça que c'est bon.
Guillaume Sanchez, j'imagine que ça vous fait sourire, ce contraste entre les vieux films français représentant les grands restaurants classiques qu'on entend en fond et la lecture de vos plats qui est complètement différente.
Mais qui reste assez traditionnelle finalement dans l'approche. C'est-à-dire qu'on a, j'ai voulu ramener autre chose en termes de texture, de température, de conditionnement des produits et de temps que je leur donne. Mais en soi, ça reste de la jolie cuisine française, mais tout simplement parce qu'elle a inspiré d'un terroir, que tous nos produits viennent de France, et je pense que c'est ce qui caractérise, en fait, une cuisine. C'est ses produits, pas la façon dont on les travaille.
Oui, on découvre en vous lisant, Guillaume Sanchez, qu'effectivement, comme la plupart des jeunes chefs aujourd'hui, vous privilégiez ceux qui vous fournissent les produits. C'est-à-dire, vous les connaissez, les pêcheurs, les agriculteurs, c'est local. Et en fait, l'équipe, quand vous parlez d'équipe, ce ne sont pas seulement ceux qui sont en cuisine avec vous, c'est aussi tous ceux qui vous procurent ces produits exceptionnels que vous mettez en valeur dans votre restaurant.
Absolument. Absolument. Moi, ce qui m'emmerde le plus, en fait, avec ce sujet-là, c'est que pour moi, c'est déjà un sujet du passé, en fait, l'environnement, l'écologie, la saisonnalité. Le vrai problème, c'est pas ceux qui l'ont compris. Le vrai problème, c'est ceux qui n'ont pas fait la mise à jour. Et aujourd'hui, pas faire cette mise à jour, en fait, devrait être puni par la loi, je pense. Mais oui, les producteurs font partie de l'équipe, comme les vignerons, enfin, tous ceux qui créent l'écosystème d'un restaurant, en fait. Mais... Et c'est ce qu'on est en train de perdre en ce moment, justement. C'est ça le vrai danger de l'époque.
Et pourtant, justement, dans cette époque, avec ce confinement, Dieu sait si on a été submergé par les Français ont compris, les Français changent d'habitude, les Français vont aller acheter chez le maraîcher à côté de chez eux. Vous n'y croyez pas du tout?
Non, pour l'instant, les Français s'en foutent, principalement. Ça reste une niche bobo, ou alors une niche très, très idéologique, qui est assez faiblarde en France, contrairement à certains pays, mais mieux que d'autres. Parce qu'on peut pas juste se permettre de montrer du doigt constamment les Français. Le problème, c'est qu'ils se sont laissés aller dans un confort. Ils se sont laissés aller dans une facilité. Malheureusement, pour réapprendre, il faut l'apprendre presque dans la douleur. Il faut se forcer, il faut aller le chercher. Il faut comprendre qu'on trouvera pas, en fait, tous ces produits dans un seul et même lieu. Il faut prendre du temps. Le temps aujourd'hui est de plus en plus rare pour les gens. Surtout ceux qui travaillent beaucoup, parce qu'ils ont besoin de travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Donc voilà, c'est encore une fois un défi pour certaines classes sociales, finalement.
Oui, mais ça reste aussi un problème d'argent, vous l'avez dit, Guillaume Sanchez. C'est-à-dire que tout le monde adorerait manger des poissons de petits bateaux pêchés à la ligne, mais est-ce qu'on est prêt à mettre qu'il faut?
Dans ces cas-là, en fait, le sujet, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de manger des protéines animales tous les jours? Ça, c'est un vrai sujet. Je suis pas pour les régimes extrêmes. D'ailleurs, je suis pas pour les mouvements extrêmes, en fait. Donc pour moi, le mouvement vegan ou les végétariens, c'est presque un non-sens en France. En fait, le sujet, c'est juste mangeons mieux, mangeons raisonné, mangeons proche de chez nous. On dit souvent l'agroalimentaire coûte moins cher que de faire ses courses chez un petit producteur. C'est complètement faux, en fait. C'est archi faux. Un kilo de carottes, de vraies carottes, coûte à peu près 4 fois moins cher que 250 grammes de carottes râpées chez Monoprix. Et en fait, le sujet est là. Le sujet est de dire, est-ce que juste vous n'avez pas envie de manger intelligent maintenant? Et oui, effectivement, un poisson de petit bateau, bah ouais, ça coûte cher. Mais pourquoi ça coûte cher? Mais parce qu'en fait, le mec, au lieu de fracasser les fonds marins, bah, il est avec sa canne à pêche et puis il attend de remonter 3-4 poissons. Et puis il recommence. Le temps, en fait, se paye. La qualité se paye et il faut que ça perdure.
Mais vous pensez qu'un changement d'habitude pour se nourrir, ça devrait passer par quoi? Par les politiques, une fois de plus? Est-ce que ce sont les personnes qui devraient impulser ce changement? Qui pourrait tenir un discours à l'échelle nationale? Parce que vous, on vous entend, les auditeurs qui vont vous écouter ce soir vont vous entendre, mais...
Bah, en fait, c'est assez drôle, parce qu'aujourd'hui, les restaurants sont fermés, parce qu'ils sont montrés du doigt comme des clusters du coronavirus. Pas de problème. Mais alors, dans ces cas-là, les centres commerciaux, les grandes surfaces où tout le monde touche tous les produits, où le masque n'est pas forcément bien respecté, où ça tousse, où ça parle, où ça rigole. Dans ces cas-là, il n'y a pas de cluster. Donc, quitte à choisir, en fait, ces zones de cluster, moi, je préférerais qu'on dise, bah, écoutez, les restaurants sont fermés, mais par contre, les grandes surfaces aussi. Et du coup, en fait, les restaurateurs, on va vous demander de vous transformer et puis de vendre les produits de vos producteurs à vos clients. De toute façon, ils n'auront pas le choix, ils auront que vous. Et là, d'un coup, on impulse une autre dynamique, en fait, aux Français. On peut profiter d'une période super relou pour réapprendre aux Français à manger correctement. Et on sort un poil plus grand de cette crise. Malheureusement, c'est pas le choix qui a été fait.
vagabonde sur France Inter.
Bergamote, calamondin, cédra, citron meyer, immortel, lavande, lierre, marjolaine, matricaire, mauve, kumquat, main de Bouddha, minéola, orange amer, satsuma, sudashi, tangerine, ougli, menthe aquatique, myosotis, nombril de Vénus, ortie, oxalis, pa, aquilée, ail, ail des ours, berce, graine, bourse à pasteur, cardamine des prés, cardamine hirsute, carotte, cerfeuil, cresson, genévrier, pain de Douglas, pourpier, salicorne, sédum, chiseau, stellaire, sureau, valériane, vipérine.
Guillaume Sanchez, on vient d'entendre, toujours lu par Marie-Pierre Planchon, la charmante litanie des herbes et des fruits que vous utilisez beaucoup dans votre cuisine. Et en l'écoutant, je pensais qu'en fait, c'était vraiment la démonstration de votre principe que vous expliquez dans le livre de la claque et de la caresse. Parce qu'en fait, vous avez, en même temps, dans les recettes que vous nous donnez à méditer, il y a des choses très, très techniques, très précises sur la fermentation, sur ce qu'il faut faire, quand le faire. Et puis, en même temps, il y a cette évasion avec toutes les herbes, tous les produits que vous mettez dans votre cuisine. Au fond, claque et caresse, c'est vraiment votre façon d'aborder la cuisine.
C'est ce que vous venez de faire en mettant la BO de Whiplash avec juste derrière l'énoncé des produits que j'utilise. En fait, c'est ça la cuisine. C'est
déstabiliser et ensuite réconforter. C'est comme ça que vous aimez.
Mais pas que, en fait. Il y a des termes aujourd'hui qui sont en cours d'amélioration et qui doivent encore s'améliorer dans la gastronomie française. Et dans la gastronomie mondiale, d'ailleurs. Sur le rythme, la philosophie d'un restaurant, le bien-être de ses équipes, le bien-être du client. Mais ça reste... Ça reste une grande fête foraine, en fait. Ça reste des coups de feu, ça reste des hauts et des bas, ça reste que des claques et des caresses, en fait. Et c'est compliqué de faire évoluer un milieu autant ancré dans ce système-là. C'est pour ça que, en fait, la cuisine m'a toujours fait penser à la musique. On trouve cette même rigueur, on trouve ces mêmes phases ascendantes, ce même plaisir pendant un concert, mais pas avant le concert.
D'ailleurs,
je ne sais pas si ça répond à votre question.
Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui, évidemment, pour quelqu'un qui fait de la radio, m'a marqué. Quand vous comparez tout ce que vous avez à votre disposition pour effectuer ces recettes, vous comparez ça à une table de mixage et vous dites, parfois, il faut pousser les potards à fond. Et en fait, ça nous parle beaucoup, forcément, ici, cette symbolique... Ça a toujours été comme ça pour vous, mais j'ai l'impression que dans votre vie aussi, c'est comme ça, comme si vous étiez sans arrêt, sur un fil, en équilibre, et puis tout d'un coup, ça redescend, ça remonte. C'est un peu comme ça que vous vivez?
Ouais, je crois, ouais. Mais parce que parfois, il faut juste savoir mettre le volume à fond pour se réveiller, et puis parfois, on a besoin d'un peu plus de douceur, donc on baisse un peu les basses, et puis juste on écoute de loin. Et je pense que nos vies sont faites de ça, en fait. Et c'est aujourd'hui la richesse de la cuisine, d'avoir cette capacité-là.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête tous les deux un moment, Guillaume Sanchez, sur quelque chose, sur un plat dont vous parlez dans votre livre et qui n'est pas du tout un de ces plats extraordinaires dont on entend la lecture dans l'émission ce soir. C'est quelque chose qui vous est venu parce que vous dites, voilà, on est souvent habitué à vivre ce qu'on mange comme un réconfort, et le réconfort, c'est le gras, le chaud, la texture, et bon, le croque-monsieur, qu'est-ce qu'il y a de plus réconfortant qu'un bon croque-monsieur? Et vous avez inventé quelque chose de différent tout en étant lié à ça, c'est-à-dire d'une sorte de croque-monsieur de la mer, en fait, à base d'anguilles. Et vous racontez que vous avez cherché à retrouver ce qui fait l'émotion, c'est-à-dire le croquant, des goûts acides et en même temps un moelleux. Et donc, en fait, il y a quelque chose aussi qui vous relie à la cuisine de l'enfance, au fond.
Le croque-marin, l'idée était de créer un plat... Un plat qui soit que caresse, mais qui, dans l'intitulé, puisse être une claque. C'est compliqué aujourd'hui de servir de l'anguille aux gens. Parce qu'ils ont beaucoup d'a priori, un peu comme la betterave finalement. Ils ont eu l'habitude d'en manger à la cantine, du coup c'était dégueulasse. Du coup ils en mangent plus, et c'est dommage. On a voulu du coup réintégrer l'anguille à ça. Alors effectivement, certaines personnes diront que c'est braconné, que machin, que truc. Bon, on voit l'éthique là où elle est. L'idée c'était juste de faire du bien à ceux qui le mangent. En fait, comme un croque-monsieur, tout simplement. Donc on a repris les codes du croque-monsieur et on les a mis de manière hyper simple, finalement, dans un autre sandwich. Et les gens s'y retrouvaient. Des gens, même qui sont pas fans d'anguilles, ont eu du plaisir à manger ce plat-là. Mais finalement, la cuisine, parfois, c'est aussi faire de la pop, en fait. On connaît les codes, on sait qu'en en quatre accords, ça passe, et on le fait.
Et d'ailleurs, vous dites qu'instinctivement, vos plats... Alors, il y a peu de gras, il n'y a quasiment jamais de sucré, il y a beaucoup d'acidité, parce que vous aimez ça, des gouillodés aussi, et surtout... Vous dites le solide est rare chez Nesso. Vous aimez le souple, onctueux, le soyeux, beaucoup de choses gélifiées. Ça aussi, ça fait penser à l'enfance.
Oui, alors attention, parce que par gélifié là, chez Nesso, c'est en fait c'est contrôler, apprendre à contrôler les liquides. Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec un ours en gelée dans l'assiette. L'idée, c'est juste de maintenir la texture. Mais effectivement, il y a peu de choses qui se mâchent longtemps, il y a peu d'éléments durs, d'éléments très croustillants, en tout cas très croquants. Mais tout simplement parce que j'essaye de pas trop brouiller le message du produit. Mais moi, le but principal de la cuisine de Nesso, c'est de mettre en avant des produits français. Bien faits, bien pêchés, bien produits. Donc effectivement, il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui viennent changer ça.
Guillaume Sanchez, dans Post Cuisine, il y a toute votre trajectoire, votre philosophie de la cuisine, beaucoup d'autres choses aussi, de la musique. Mais il y a toutes ces recettes qu'on lit un peu comme on lirait d'ailleurs un livre tout bêtement, parce que c'est poétique, ça fait voyager énormément. Mais s'il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on se dit, on n'y arrivera jamais nous-mêmes. Donc effectivement, on lit pour... Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas les moyens d'aller dans votre restaurant. Donc on lit pour rêver et on lit pour s'en inspirer aussi. C'est possible à partir de ce que vous proposez de chercher notre propre voie ?
Absolument. La cuisine, c'est pas juste aller au restaurant. La cuisine, c'est pas juste payer cher un menu. La cuisine, c'est aussi comprendre un petit peu les couleurs qui la font. Et réussir à les réinterpréter à sa sauce. Finalement, en fait, le message de Post Cuisine, c'est voilà ce que moi j'ai appris, voilà ce que je sais, voilà ce que je sais pas, et je vous le donne. Et faites-en ce que vous voulez. Et misez sur votre différence, et soyez libre, et amusez-vous, quoi.
Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de ces photos sublimes, retouchées. Il n'y a que des dessins, et ça permet de voyager.
C'est parti, 6 couverts pour ce midi.
Et vous avez prévu quoi ?
Saint-Pierre et maquereau, eau de riz fermentée, vinaigre de riz et huile d'agrumes, yaourt de Saint-Pierre, caramel de Saint-Pierre et eau de navet fermentée.
À table, mes enfants, allez, dépêchez-vous, allez.
Carottes d'hier et d'aujourd'hui, fraîches et fermentées, réduction de carottes et vinaigre de lavande sauvage.
Fromage, poisson.
Chèvre glacée, piment jalapeño, kimchi, mûres fermentées et feuilles de chiseau. Ravioles de homard, évaporation de homard et marc de café fermenté. Saint-Jacques déshydraté, crème de Saint-Jacques, œufs de hareng fumés.
Évidemment, l'ambiance, c'est pas une guinguette.
Elle est dans l'assiette, l'ambiance.
Huîtres pochées dans sa coquille, crème iodée et citronnée, brunoise d'oca fermentée, chlorophylle de cresson et pourpier.
Je vous la carte des vins.
Merci.
Bon appétit.
Guillaume Sanchez, parmi vos plats signatures, il y a surtout une façon de préparer certains légumes, notamment la fermentation. Mais ça vient, on connaît par exemple les fermentés en Corée, le kimchi parfois qui dure plusieurs années. Et c'est absolument fascinant dans votre livre de découvrir que vous faites parfois des fermentations qui durent non seulement des mois, mais des années aussi. Vous avez un local spécial et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette technique-là ?
C'est marrant parce que quand on parle de fermentation, on parle souvent de kimchi. Alors qu'il y a un exemple qui est un poil moins loin, qui s'appelle la choucroute.
C'est vrai, on n'y pense pas.
Donc en fait, la fermentation, en fait, c'est quelque chose de très français, qui est souvent apparu lorsque les gens devaient conserver un produit, voilà, quand le climat n'était pas très sympa avec nous, ou en période de guerre. Moi, j'ai intégré les fermentations dans ma cuisine le jour où je me suis rendu compte que c'était un exhausteur de goût assez incroyable. De deux, un moyen de personnaliser finalement les produits qu'on source, de manière à pas avoir la même carotte qu'un autre chef qui a acheté la même carotte au même producteur. Un peu comme un levain finalement pour un boulanger. Et dernier élément qui pour moi est aussi important que les deux autres avec la fermentation, c'est que ça permet d'un point de vue écologique finalement de réduire considérablement la perte de matières premières, étant donné que les produits sont bloqués, et on les garde autant de temps qu'on veut, et on les sort à la demande. Donc finalement, en termes de solutions pour l'hôtellerie-restauration en période de crise, c'est quand même pas mal.
Alors on en revient malheureusement à cette période que nous traversons, après avoir voyagé dans votre livre Post-Cuisine, Guillaume Sanchez. On espère pour vous que le 20 janvier... les établissements pourront réouvrir. Mais moi, j'ai du mal à vous imaginer repartir comme avant, pareil, avec le restaurant, même s'il y a des distances entre les tables. Est-ce que vous avez justement réfléchi? Alors, à la fin, vous faites une postface, justement, à cause de ce qui se passe en ce moment, et vous dites, au fond, mais j'ai l'impression que c'est presque une boutade, vous dites, il faudrait qu'on fasse une table pour un invité et ses invités à lui, et est-ce qu'il serait prêt à payer le prix de toute la brigade, de tout le restaurant? Mais c'est pas pensable.
C'est effectivement pas pensable. Mais alors dans ces cas-là, la vraie question à se poser, c'est quel est l'avenir du fine dining aujourd'hui? Est-ce que les restaurants tels qu'on les connaît aujourd'hui ont encore un avenir en fait? Et ça pour le coup, c'est le consommateur qui va le décider. C'est ni les chefs, ni la presse, c'est le client qui, dès qu'on aura réouvert, va pouvoir voter deux fois par jour, midi et soir, en visitant des restaurateurs de qualité, j'espère. C'est eux qui vont choisir. On est un peu victime de ça.
Eh bien, Guillaume Sanchez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que les consommateurs et les clients choisissent avec leurs pieds, en revenant. Et on espère vous revoir... sur les rayons des librairies, bien sûr, puisque le livre restera important pour vous. Merci à vous et bon voyage dans les produits et dans les expériences.
Merci.
Au revoir.